Auditrices, auditeurs de Radio Nîmes, bonjour. Eh bien, ce matin, c'est la dernière interview pour cette campagne des municipales 2026. J'ai le plaisir d'accueillir Franck Proust pour la liste Nîmes par-dessus tout. Franck Proust, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, écoutez, d'abord, on va faire un petit point sur le premier tour, si vous êtes d'accord. Donc, avec des surprises. Une surprise, c'est que M. Sanchez arrive en tête devant M. Bouget. Vous arrivez avec 19 et quelques pourcents de voix.
19,55.
Et
mon collègue...
15,55, oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces résultats qui vous concernent personnellement? Je crois que vous avez, je vous ai entendu dans une conférence de presse dire que vous aviez pris une petite gifle.
Oui, bah effectivement, puisque c'est un score qui n'avait pas du tout été évoqué lors des différents sondages qui avaient été faits. Mais je pense que là, comme je l'ai toujours dit dans cette campagne, on a quelque part nationalisé le débat, en oubliant la connotation locale, et ce qui a fait que j'ai 6-7 points qui sont partis au Rassemblement National dans les derniers jours. Voilà, donc moi, mon attitude, ça a été de dire on ne peut pas donner sur le second tour des municipales le choix entre un maire communiste et un maire RN. C'est pas ce que j'entendais sur le terrain et autres, donc on a décidé en toute lucidité, non pas par facilité, non pas par calcul, mais par devoir, de fusionner les deux listes de Julien Plantier et de Valérie Roux-Vivant avec ma liste, ce qui nous positionne au soir du premier tour à 35,1% des sondages, donc des votes exprimés. Donc ça veut dire que nous sommes en tête au premier tour et j'espère bien que nous serons en tête dimanche prochain.
Alors on peut remarquer également, il y a un point important je trouve sur ce premier tour, c'est qu'il y a un taux d'abstention qui est élevé.
Tout à fait.
En particulier, il y a deux cantons où moins d'un électeur sur deux s'est déplacé.
Oui.
Alors qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ?
C'est assez curieux parce que bon, il y avait eu quand même l'expérience de 2020, mais qui correspondait à la période Covid aussi. Mais généralement, c'est vrai que les élections locales engendrent un taux de participation un peu plus fort. On est plus aux alentours de 60. Il y a même eu des taux de participation à 70%. Là, et ce qui laisse d'ailleurs une marge de progression pour tous les candidats d'ailleurs.
Pour tous, oui, puisque c'est effectivement les quartiers populaires ou les quartiers, des secteurs qui bénéficient des politiques de la ville.
Tout à fait.
Où on s'aperçoit qu'il y a eu vraiment de l'abstention importante.
Oui, mais enfin, bon, quand on regarde un peu la cartographie, il n'y a pas que ces quartiers-là. Généralement, ce sont des quartiers qui votent pas trop non plus, quoi.
Oui, habituellement, donc il y a des taux d'abstention élevés. Alors, le premier canton, bien sûr, il y a un taux très élevé, à près de 60 et quelques pourcents. Heureusement, sinon, le taux de participation était en dessous de 50%
tout
globalement.
Tout à
donc,
fait.
Des raisons particulières qui expliquent ce taux d'abstention. Alors, vous avez fusionné et vous intitulez votre liste Nîmes par-dessus tout. C'est ça, hein, je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Alors, je voulais savoir, la question que je voulais vous poser, qu'est-ce que ça recouvre, cet intitulé de liste?
Ben, c'est-à-dire qu'on a placé Nîmes au-dessus de toutes les ambitions, au-dessus de peut-être toutes les difficultés. Je crois qu'il ne faut pas nier, je le disais hier soir, les difficultés, les mots, les désaccords, parfois les différends. Mais moi, j'ai connu 95.
Oui.
Et donc, est-ce que, parce que j'entends parfois les gens dire « vous auriez pu faire l'union beaucoup plus tôt ». Oui, je dis d'accord, mais mieux vaut tard que jamais. Est-ce qu'il vaut mieux un accord maintenant plutôt qu'une désunion qui serait j'allais dire durable et stérile? On n'allait pas revivre 95, donc aujourd'hui encore une fois résoudre ou résumer le deuxième tour des élections municipales entre un choix d'un maire communiste ou du Rassemblement National, ça me paraissait très restrictif. Et donc là, on a une candidature d'union de la droite et du centre. C'est jamais simple une fusion, mais on a voulu placer l'intérêt de Nîmes et des Nîmoises et des Nîmois par-dessus tout.
Alors les fusions entraînent bien évidemment le retrait de certaines personnes qui étaient
c'est
sur
plus
les
dur listes. Sur un plan humain.
Et donc ça entraîne certaines frustrations sûrement.
Tout à fait, mais c'est dramatique parce que vous partez, vous savez, une campagne c'est une aventure humaine. Et donc, quand vous êtes obligé de vous séparer de gens que vous aimez, avec qui vous avez vécu des choses, une belle histoire, leur dire bah, « tu vas t'arrêter sur le bord du chemin », c'est très très compliqué. Et je dois vous dire que j'ai passé d'abord une nuit entre dimanche et lundi, et après lundi, qui a été très très compliqué, et sur un plan humain très difficile.
Et donc, dans cette fusion de listes, vous avez réparti le nombre de candidats. Ils sont répartis comment ?
Oui, on les a répartis à la proportionnelle des scores, obtenus. Voilà. Et ensuite, on a travaillé également sur une répartition des exécutifs, c'est-à-dire que si je suis élu, je serai maire, Julien Plantier sera président d'agglomération et Valérie Rouveyran aura des responsabilités importantes au sein de la ville et de l'agglomération.
Donc il y avait certains points dans vos programmes sur lesquels vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Donc apparemment vous avez réglé le différend sur l'aspect financier, fiscalité.
Oui. On a toujours les mêmes priorités, sécurité, santé, pouvoir d'achat. Mais d'ailleurs quand on faisait des débats bien souvent sur les différents médias, les journalistes nous disaient... Quand on vous écoute, il n'y a pas grand-chose quand même qui vous sépare, il n'y a même pas l'épaisseur d'un papier de cigarette. On avait des problèmes de fond, de forme, plus que de fond. Je vais vous prendre un exemple. Sur la fiscalité, Julien Plantier voulait une baisse de la taxe foncière de 6. Et moi j'avais dit, je m'engage à faire, et souvenez-vous, j'étais dans vos locaux il y a une semaine, je m'engage à ne pas augmenter les impôts comme l'a fait Jean-Paul Fournier depuis 25 ans, je mettrai tout en œuvre pour les baisser, comme je l'ai fait à l'aglo, j'ai baissé la tome de 10 l'année dernière, de 5 cette année. Bon, après, on a fait un choix, on s'est mis dans la table, on dit, bah, ok, on va y arriver. C'est un exercice sur lequel il faudra diminuer notre budget de 8 millions d'euros. Mais j'ai dit, oui, pourquoi pas. Ce qui me gênait, c'était d'annoncer 6. Et si on peut faire 10, on fera 10. Mais, encore une fois, c'est quand même lié en grande partie à la conjoncture nationale et au contexte géopolitique. Je vous l'ai expliqué par rapport à la dotation globale de fonctionnement de l'État et par rapport peut-être à l'éventuelle suppression des fonds européens. Mais voilà, ce qui est quand même important, c'est que on a travaillé sur une fusion de programmes par rapport à d'autres. C'est qu'on a un programme déjà, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et puis on était les deux seuls candidats à avoir un programme chiffré. Et ça, c'est important. Donc à partir de là, on fait des choix, et sur les thématiques sur lesquelles on va continuer à travailler, on va prendre le meilleur des deux programmes. Et puis je voudrais, si vous me permettez, insister sur un fait également, c'est que je connais Julien Plantier, hein,
vous avez travaillé longtemps ensemble.
Trois mandats avec lui. J'ai géré également avec Valérie Rouveyran. Vous savez, j'ai été maire par intérim à un moment donné. Elle était adjointe à l'éducation. On avait mis en place le principe de 1 plus 1 égale bio pour les cantines scolaires. Donc, c'est des gens qui se connaissent, qui connaissent Nîmes et qui connaissent les institutions. Ça veut dire que sur un plan opérationnel, dès le 23, on peut gérer Nîmes.
Tout à fait, c'est quelque chose d'important.
Bien sûr.
Alors, sur un autre point aussi, donc c'était les indemnités, la baisse des indemnités des élus. Alors, si je ne sais pas, vous avez accepté la...
Oui, bien sûr. Bah, c'était, moi, vous savez, c'est vrai qu'on peut... C'est plus dans le symbole, mais effectivement, ça ne m'a pas posé de problème d'accepter cette demande.
Et sur un sujet qui est le premier relevé par les Nîmois, c'est la sécurité. Vous aviez quelques divergences sur le nombre de policiers ou les effectifs.
Non, c'était pas sur le nombre, c'était sur la forme. Bon, moi j'ai d'ailleurs on a conservé ça, le couple maire-préfet. On est toujours sur des postes de mobile, des postes de municipales mobiles pour aller dans les quartiers. On est également sur des recrutements de 20 personnes par an sur la PM, ainsi que sur des caméras de vidéosurveillance, sur également la construction de l'Office de la Tranquillité, sur la construction d'une brigade de nuit qui va lutter contre les incivilités, c'est-à-dire toutes les nuisances, ça peut aller des nuisances sonores, les nuisances engendrées par certaines épiceries de nuit, le déplacement... Parce qu'on peut pas, encore une fois, lutter contre les narcotrafiquants. Le maire a une police municipale ses policiers ne sont pas officiers de police judiciaire. Donc ça, c'est le rôle de l'État. Mais vous pouvez, en mutualisant et en déplacer de manière à ce que ça empêchent et ça pourrisse, entre guillemets, le quotidien de la ville limoise. Mais il ne faut pas leur mentir non plus. Mmh. C'est-à-dire que le maire, il n'a pas vocation ni à s'occuper d'immigration, ni à s'occuper, excusez-moi, des narcotrafiquants. Il n'en a pas les pouvoirs. Dire ça, c'est mentir au Limois. Et moi, j'ai un souci de transparence. Mais on n'avait pas beaucoup de divergences sur la sécurité avec Julien Plantier. Il a d'ailleurs accepté également toutes mes propositions concernant la santé. Mmh. Hein, c'est important. Et sur le pouvoir d'achat, effectivement, il m'a dit que la possibilité d'offrir un repas à tous les petits Nîmois en élémentaire et en maternelle, quelles que soient les sources de revenus, était plutôt une bonne chose. Comme j'ai dit, c'est une source d'équité, de santé et d'égalité.
D'accord. Et puis un autre sujet sur lequel il y avait des divergences, ou alors peut-être j'ai mal lu, c'était sur les transports. Parce que là, actuellement, gratuité pour les transports des jeunes de 70 ans.
Voilà, 70 ans, lui voulait qu'on intègre la gratuité pour les moins de 18. Et il a convenu avec moi qu'il fallait attendre et le revoir de manière un peu... La gratuité, sur un principe de base, je suis contre, parce que la gratuité n'existe pas. C'est toujours le contribuable qui paye. Et ce que j'ai expliqué, c'est que le budget des transports, c'est 52 millions d'euros d'un côté sur la délégation de services publics, 8 millions de recettes de l'autre côté. Ces 8 millions de recettes me servent à améliorer le réseau, à moderniser la flotte, et regardez bien toutes les grandes villes où la gratuité a été mise, même la CRC a dit que c'était une erreur néfaste. Et ce qu'attendent les gens, c'est pas la gratuité des transports, parce qu'aujourd'hui, le transport est déjà gratuit, si vous me permettez le mot, à 80%. Quand vous payez votre ticket de bus à 1,40 ou à 1,50, eh bien, c'est pas le coût de revient en tant que tel. Pour les enfants, je vous l'avais déjà expliqué, on a un abonnement annuel de 90 euros, c'est-à-dire 7,50 euros par mois, trajet illimité. Alors que j'ai des concurrents qui disent qu'il faut un système d'équité parce que avec les trains, les bus de la région, c'est gratuit. C'est gratuit, ils ont un aller-retour dans le lycée, mais à condition que ils appartiennent au lycée appartenant à leur rayonnement géographique. Donc, il faut pas raconter n'importe quoi. Puis 7,50 euros par mois, encore une fois, c'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes, encore moins d'un abonnement de téléphone. Hein.
Autre sujet, c'était les Costières.
Oui.
Donc, vous êtes arrivé à un accord sur différentes.
Tout à fait. C'est-à-dire, d'abord, je pense, et j'ai voulu avoir des précisions sur le projet de Julien, parce que, effectivement, quitte à refaire un stade, il faut un stade à 4 tribunes. Bon. Mais il est ouvert également sur la possibilité d'une destruction-reconstruction avec un stade, je disais, en forme d'arène et sur l'autre partie de la plateforme cimentée, parce que vous pouvez pas construire ailleurs, faire une extension éventuelle de PGS, de la polyclinique du Grand Sud, voire l'installation d'entreprises, pour sa bastide médicale ou autre. Mais il est d'accord avec moi qu'on va consulter les Nîmois, on va faire ça avec eux, parce que là, je pense vraiment que c'est un dialogue que nous devons faire avec le stade. Parce que, c'est gentil de tout promettre en période électorale, mais encore une fois, Julien et moi, nous avions chiffré le programme. Mais vous pouvez pas à la fois rénover les Costières, moderniser le Parnasse, créer des infrastructures nécessaires dans tous les quartiers. Vous vous souvenez, j'avais dit, il faut une piscine du côté du Mas de Mingue, sur en face Védelin. Vous avez ni stade, ni piscine, ni gymnase. Sur Chername, on manque d'un gymnase. Bon. Et quand vous regardez le programme, il y a quand même des infrastructures qui sont importantes dans tout Nîmes. Et donc voilà, on est d'accord sur 95% des choses. Donc c'est pas un véritable sujet, la confrontation des programmes.
Non, mais personne n'a avancé cet argument. Enfin, j'ai pas entendu ce type d'argument. Maintenant, on va venir à l'aspect plus politique de la chose. Un point encore, parce que je viens de lire ce matin sur les Halles, il y a un salarié avec un collectif qui est intervenu hier au rassemblement que faisait M. Bouget.
Oui.
Donc je ne sais pas s'il représente beaucoup de salariés des Halles, mais en tout cas il s'est prononcé pour M. Bouget. Derrière M. Vergne, il y a le président du... C'est un comité des Halles, peut-être je me tombe dans les termes, est intervenu pour recadrer la chose, donc je ne sais pas si vous êtes au courant de ce...
Oui, mais j'étais au Halles ce matin.
Ah ben non.
J'en ai discuté avec eux, non, mais comme les Halles, c'est une grande famille, vote qui veut, mais résumer Léal a un vote de Monsieur Bouget. Vous savez, non, nous, ce qu'on a dit sur Léal, c'est qu'on allait refaire là une table ronde avec l'ensemble des étaliers, et encore une fois, avec des solutions qui permettent un maximum d'étaliers présents aujourd'hui, au nombre de 70, de revenir après les travaux, mais surtout avec des solutions juridiques qui soient viables. Parce que, je vous l'avais dit déjà vendredi dernier, je veux bien qu'on dise en période électorale tout et n'importe quoi, mais vous avez un cadre juridique, vous êtes sur le domaine public, donc vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Moi, les solutions proposées aussi bien par Monsieur Bouget que Monsieur Sanchez, elles sont juridiquement pas possibles. Donc, moi je veux bien qu'on avance ça. Regardez ce que j'avais fait avec les étaliers, j'avais même rédigé une délibération que je souhaitais passer le 7 février. Bon, c'est même pas monsieur le préfet qui me l'a refusé, c'est les services de Bercy. Parce que vous avez un cadre légal, un cadre juridique, et donc on peut pas tout promettre, alors parfois au risque de déplaire. Mais vous savez, c'est ce qui discrédite un peu la classe politique, parce que vous avez tellement de divergences, de différences entre la promesse de campagne électorale et la réalité, qu'à un moment donné, eh bien, les gens disent, on peut plus croire les politiques. Ben non, moi je veux travailler en toute transparence, dans un cadre juridique légal, et on travaillera en concertation pour sauver nos halles. Il n'est pas question de privatiser les halles. Les halles appartiennent au patrimoine de Nîmes, des Nîmoises et des Nîmois, et faire en sorte que ça reste ce poumon essentiel du cœur de ville, avec une chance extraordinaire, c'est que ce poumon est juxtaposé à un centre commercial avec des belles enseignes comme les Galeries Lafayette que nous avons fait venir.
Vous n'avez pas prononcé le mot de concertation, oui. Ce qui est intéressant, et puis vous avez déjà annoncé un référendum sur les Costières.
Oui.
Donc on peut.
Dès que je le pourrai, je consulterai les Nîmois. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent des consultations, des référendums citoyens qui sont très pratiques et peu coûteux, parce qu'un référendum à l'ancienne, ça coûte énormément cher. Là, avec les nouvelles technologies, il faut aussi profiter des avancées technologiques pour consulter nos citoyens, autant faire se peut.
Donc on peut espérer, on peut penser que vous les consulterez, oui, quand vous serez maire, sur d'autres sujets, oui, importants, bien évidemment, sûr, sur les investissements.
Ça permet d'avoir une aide à la décision, parce qu'on s'engage sur un programme, mais je trouve que, par exemple, sur le stade, c'est très intéressant.
Oui, ouais, bien sûr, tout à fait.
Il faut parfois redonner à l'intérieur d'un mandat la parole au peuple.
Donc on va venir sur l'aspect politique-politicienne, oui, parce que après ce premier tour où on a vu le Front National arriver en tête, ce qui est assez rare sur Nîmes où on n'était pas habitué à de tels scores de mémoire, des personnalités de votre camp ont rejoint donc Julien Sanchez, je pense en particulier par exemple Madame Barbus, Madame Géhanneau, et hier on a appris que le directeur des arènes, le responsable, le prestataire de service, se prononçait en fait pour Julien Sanchez. Comment vous réagissez à ça?
Ah, sur mes deux collègues, c'est un peu une blessure humaine, mais bon, moi je veux dire, c'est la vie démocratique. Ce qui est un peu bizarre, c'est de le faire comme ça, après avoir partagé toute une vie politique aux côtés de Jean-Paul Fournier. Donc, mais bon, moi, c'est chacun fait ce qu'il entend. Alors après, j'ai vu les explications de Simon Cazas, qui a peur des défis, qui a peur. Oh, d'accord, ok, mais bon, de là à s'engager comme ça, et puis en tant que directeur des arènes, il eût été plus prudent pour lui de garder une certaine neutralité. C'est quand même une délégation de service public. Voilà. Mais bon, voilà. Il ne m'appartient pas de juger. Je le regrette, mais il ne m'appartient pas de juger. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Oui, tout à fait. C'est un peu étonnant.
Oui, très étonnant.
Moi qui connais Madame Barbus, parce que j'ai travaillé plus ou moins avec elle et tout, j'ai été un peu surpris. Je le dis franchement. Voilà. On continue. Donc, vous ne craignez pas qu'il y ait d'autres. D'autres départs comme ça vers le Front National. Apparemment, quand on lit, mais je mets des parenthèses, les commentaires sur les réseaux sociaux, on sait ce que traînent les réseaux sociaux. La fusion a été largement contestée, critiquée, etc. Il y a eu beaucoup de critiques. Alors, je ne sais pas si c'est simplement les critiques.
Alors, ouais. Les réseaux sociaux, je ne les regarde plus. Parce que c'est très bien piloté, d'ailleurs, par les extrêmes. Moi, je peux vous dire que sur le terrain, Voilà. J'ai un retour qui est tout autre, c'est la vraie vie. Hein, c'est pas les vrais gens, vous les avez pas sur les réseaux sociaux. Les trois quarts des profils sont des profils fantômes, cachés. Moi, ils m'ont tous remercié, les gens que je rencontre. Vous nous avez pas refait 95. À la limite, ce qu'on me dit, c'est que vous auriez pu faire l'Union plus tôt. Mais me dit, vous l'avez fait. Et c'est ce qu'on attendait. Et j'ai même des gens qui ont voté Rassemblement National par colère dimanche dernier qui m'ont dit, là, ce coup-ci, on va pas rigoler, quoi. Parce que là, maintenant, c'est le choix de la raison.
Donc, c'est la dernière ligne droite jusqu'à ce soir minuit que se termine cette campagne électorale qui, je pense, doit être un peu épuisante pour les candidats.
Oui, oui, c'est sûr que c'est un peu comme un match. On arrive un peu dans à la fin du match, on va entamer les arrêts de jeu et c'est vrai que la fatigue se fait sentir. Mais bon,
Vous avez l'habitude, c'est pas la première campagne que vous montez. Je voulais revenir sur un truc, c'est simplement pour avoir votre appréciation là-dessus, sur la gratuité. Vous avez dit que la gratuité, etc., il y a toujours quelqu'un qui paye exactement. Mais en plus, personnellement, je pense que la gratuité, pour quoi que ce soit, ça a des effets pervers.
Oui, hein, bien sûr.
Ça a des responsabilités, je pense. Je ne sais pas si vous en pensez, ça déresponsabilise les gens.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, mais vous savez, cet aspect des repas de la cantine, c'est aussi un pouvoir d'achat que je rends à cette fameuse classe moyenne qui se lève tôt, qui travaille et qui n'a jamais le droit à rien.
Oui, tout à fait.
C'est aussi une façon de... C'est pour ça que j'ai voulu offrir ce repas à tous les enfants... Au-delà de ce que je vous dis, d'équité, de la santé ou autre, c'est parfois même le seul repas équilibré. Et c'est aussi important de rendre du pouvoir d'achat à toute cette classe moyenne qui souffre beaucoup.
Moi, je pensais plutôt à la gratuité sur les transports.
Ah oui, oui, je trouve que pour moi, c'est une hérésie. Et regardez partout où c'est mis en place, c'est au détriment de la qualité de service.
Donc, on va avoir de la qualité de service sur les transports, ni moins.
Il y a encore une marge de progression.
Il y a une marge de progression. Eh bien, écoutez, il est 11h57 passé. Il nous reste 3 minutes. On doit absolument arrêter à midi. Je vous laisse le soin de conclure, d'avancer vos derniers arguments pour dimanche.
Mais écoutez, je dis au Nîmois, réveillez-vous, bougez-vous pour faire en sorte que lundi matin, on n'ait pas la gueule de bois. C'est l'avenir de Nîmes. Qui se joue, soit c'est un retour en arrière, comme on l'a connu, soit c'est un grand saut dans le vide, dans l'inconnu. Et moi, je veux ni grand soir, ni grand saut. Je veux que cette ville continue à rayonner, je veux une ville qui continue à briller, à se développer. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en termes d'image, avoir un maire communiste comme un maire du Rassemblement National, ça serait catastrophique pour cette ville. Donc il nous reste, 48 heures pour... convaincre ceux qui n'ont pas voté, ceux qui hésitent, ceux qui auraient envie d'exprimer un vote de colère par rapport à un sujet national, pour leur dire, attention, vous êtes sur une élection locale. Et donc, c'est important d'aller voter une seule voix, un seul bulletin. Ne vous faites pas voler cette élection. C'est trop important pour l'avenir de Nîmes et les Nîmoises. Donc, votez un seul bulletin, Nîmes par-dessus tout.
Eh bien, je vous remercie, Monsieur Proust, et puis bonne continuation et bonne journée.
Merci à vous.